Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h43, bienvenue dans un instant, c'est le petit déjeuner de l'actu. Nous serons bien sûr avec Thierry Garrier, Yves Decardrel, Christine Bouillot, vos appels 0826-300-300. Et qu'est-ce qui fait parler ce matin? C'est la revue de presse avec Benjamin Glaise.
Oui Benjamin, alors avec ce constat qui est à la une du Figaro notamment, la délinquance qui s'étend aux campagnes françaises.
Oui, les dernières statistiques du ministère de l'Intérieur révèlent effectivement une très forte augmentation des violences dans les zones rurales ainsi que dans les villes moyennes, autrement dit en zone gendarmerie, plus 8% en un an contre moins 5% en zone police, donc dans les grandes villes. Violences intrafamiliales, séquestrations, viols, outrages, escroqueries ou encore règlements de compte. Dans certains départements ruraux, la hausse est spectaculaire, notamment en Ille-et-Vilaine, en Gironde, dans la Marne, le Calvados, la Vendée ou encore le Rhône. Le ministère de l'Intérieur, face à ce constat, envisage, dit-il, de repenser la répartition police-gendarmerie en fonction de ces bassins de délinquance qui évoluent.
Oui, à la une du Parisien aujourd'hui en France, le mystère de l'infirmière disparue.
Oui, on en parle déjà depuis de longues semaines. C'est celui de Delphine Jubilard qui a quitté son domicile de Cagnac dans le Tarn il y a près d'un mois. Depuis, l'enquête patine. La seule certitude que nous avons, c'est que la disparition ne peut s'expliquer que par l'intervention d'un tiers, explique prudemment une source proche des investigations. Sur les réseaux sociaux, beaucoup mettent en cause le mari, faisant bien souvent le parallèle avec l'affaire Daval. Mais toute comparaison demeure hâtive à ce stade, selon le Parisien. Les enquêteurs continuent donc d'explorer toutes les pistes et n'excluent pas qu'elle ait pu faire une mauvaise rencontre.
Oui, il y a l'actualité internationale aussi dans Libération avec un Donald Trump muselé.
Ben oui, on en a déjà parlé dans ce grand matin. Un montage, en l'occurrence, dans Libération, accompagné de ce titre. Trump, silence réseau, finit les posts sur Facebook, les messages sur Twitter. Après avoir incité à l'assaut du Capitole, le président américain a été banni des principaux médias sociaux. Une décision tardive, mais qui interroge aussi sur le rôle des GAFA dans les démocraties. C'est le commentaire donc, de Libération ce matin.
Oui, et on y reviendra justement dans 20 minutes maintenant avec Thomas Fauré, qui est président de Valère. C'est un réseau social français. Sur cette question aussi de la souveraineté, des protections des données personnelles, avec WhatsApp notamment, mais également avec cette censure, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais en tout cas ça fait beaucoup causer. Merci Benjamin. On continue, avant notre petit déjeuner de l'actualité, de faire le tour de France de la presse avec Guilhem Ricavi, directeur de rédaction du groupe La Provence, qui est avec nous. Bonjour Guilhem.
Oui, bonjour Patrick, bonjour Cécile.
Bonjour.
Oui, alors Guilhem, évidemment la menace du variant anglais qui est en une de La Provence.
Oui, effectivement, ce variant anglais dont un cluster a été détecté il y a 48 heures à Marseille, a priori un cluster familial, une résidente de Grande-Bretagne qui est venue retrouver sa famille ici à Marseille pour les fêtes et qui aurait visiblement contaminé au moins 23 personnes sur la quarantaine de personnes potentiellement concernées. Et sur ces 23 personnes, eh bien, il y a déjà 8 personnes dont on a la confirmation après séquençage du virus qu'il s'agit bien de cette fameuse variante dont on sait qu'elle est très contagieuse, beaucoup, beaucoup plus que la version originale. Et cette menace est prise très au sérieux par les autorités à Marseille qui, hier après-midi, ont tenu un point presse avec les marins-pompiers, les autorités sanitaires, les autorités politiques, puisque Benoît Payan aussi a détaillé l'ensemble des mesures prises dans les 4 arrondissements de Marseille concernés, ou en tout cas sous la potentielle menace de cette variante du coronavirus.
Ah oui, comment c'est perçu par la population marseillaise, par les Marseillais eux-mêmes? Est-ce qu'il y a la crainte justement de cette propagation rapide, ou est-ce que l'on essaie de vivre à peu près quand même normalement malgré tout?
Alors c'est vrai que les Marseillais s'étaient habitués à la présence du coronavirus, une vie presque normale malgré les restrictions s'était de nouveau imposée. À partir d'aujourd'hui, il y a un couvre-feu anticipé, on fait partie des départements dans les Bouches-du-Rhône, des départements où le couvre-feu sera à 18h, mais il faut reconnaître que cette variante anglaise de cette souche de Covid suscitait hier beaucoup d'inquiétudes et tout le monde essayait de savoir où précisément résidaient les personnes qui en étaient atteintes, par inquiétude de les avoir croisés, de les avoir côtoyés. Et c'est vrai qu'il se rajoute à une peur déjà ambiante l'incertitude du risque de ce nouveau coronavirus.
Oui, c'est ça, parce que Marseille et les Bouches-du-Rhône, donc, qui font partie des 8 nouveaux départements concernés par cette extension du couvre-feu à 18h, comme d'autres départements déjà dans le Grand Est de la France, qui fait aujourd'hui qu'il y a 23 départements concernés. Ce qui veut dire que, est-ce qu'à Marseille, comme tout à l'heure on était avec un représentant des boulons boulangers dans le Vaucluse, où ils vont essayer de s'organiser différemment pour pouvoir fermer plus tôt. Là aussi, l'ensemble de la vie économique et sociale est en train de s'organiser pour pouvoir, pour que tout le monde soit rentré à 18h.
Oui, effectivement, on a plusieurs reportages dans notre édition du jour, notamment à Plan de Campagne, c'est entre Marseille et Aix-en-Provence, et c'est l'un des plus grands centres commerciaux de France qui est ouvert tous les jours de la semaine, et dès hier, effectivement, on a essayé de s'organiser pour fermer pour 18h, mais ça rend très complexe l'organisation du travail. Le directeur, par exemple, du magasin Auchan à Martigues nous disait, il a fallu en 24 heures que je refasse le planning de 500 personnes. C'est un travail colossal et dans le contexte du moment, on s'en serait bien passé.
Oui, merci beaucoup Guilhem Ricavi, donc en une de la Provence, à menace du variant anglais dans les Bouches-du-Rhône et plus précisément à Marseille. Et tout à l'heure aussi à 8h10, nous étions avec l'amiral, commandant du bataillon des marins-pompiers, près de 2500 personnes, 500 hommes qui sont mobilisés depuis hier. Merci Guilhem Ricavi.
Restez avec nous tout de suite, c'est la suite du petit déjeuner de l'actu. Thierry Garrier, Christine Bouillot, Yves de Gardel vous appellent comme tous les matins, 0826-300-300.
Oui, avec beaucoup de questions évidemment à la une ce matin. À la fois, on y reviendra tout à l'heure, Donald Trump bien sûr aussi qui a été censuré. Ça pose beaucoup de questions, quoi qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec ce que dit le président américain et la menace qu'il pourrait représenter. On en parlera. Et puis, évidemment, ce nouveau défi de l'extension du couvre-feu à 18h et le gouvernement qui va consulter Jean Castex, Thierry Guerrier, qui va consulter et recevoir tout à l'heure les représentants des différentes formations politiques.
La difficulté pour le gouvernement est toujours de même nature, c'est-à-dire qu'il veut pouvoir endiguer le risque de propagation du virus avec sa dimension nouvelle qu'est le variant et en même temps ne pas réduire de manière plus grave encore l'activité économique. C'est un casse-tête pour lequel, disons-le clairement, personne aujourd'hui en France n'a de véritable solution particulièrement efficace. Personne.
Oui. Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, a dit tout à l'heure, ce matin, qu'il n'était pas question, pas envisagé pour l'instant, un troisième reconfinement.
Enfin, moi, je me méfie, je l'avoue, des préparations de l'opinion systématiques en lui disant « Non, et pour l'instant, il n'est pas question de ceci. » Et c'est cela qui, finalement, finit par
advenir. Yves de Kerdrel, forcément, de cette menace de troisième reconfinement, notamment avec la propagation du variant britannique.
En tout cas, pour ce qui me concerne, auprès des chefs d'entreprise, il en est beaucoup question de la peur d'un nouveau reconfinement. Tous les milieux économiques sont à cran sur cette crainte d'un nouveau reconfinement. D'abord parce qu'ils écoutent autant les politiques que les scientifiques, et notamment la dernière intervention du professeur Delfraissy, ne laissait pas tellement de doutes sur un reconfinement, quoi. En tout cas, c'était son souhait en tant que scientifique, c'était que l'on aille vers un reconfinement. Il le dit depuis le 23 décembre. Clairement.
Ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, c'est que finalement, on ne comprend pas pourquoi on ne le fait pas maintenant. Pourquoi attendre, Christine Bouillot, que ça se développe, la contagion, notamment dans les écoles, qui ne se sont pas organisées complètement différemment. Alors, on sait que dans les universités, les étudiants, cette rentrée qu'ils devaient effectuer, c'est reporté. On se demande si elle aura lieu, d'ailleurs, quoi.
Oui, alors moi je reprends la conférence de presse de Jean Castex sur les écoles où il a bien expliqué que ça serait donc certainement le dernier lieu que l'on refermerait. Ils font tout pour éviter que les écoles soient fermées à nouveau parce que visiblement, d'une part pour les enseignements, puis aussi pour les parents, parce qu'on a vu aussi toutes les difficultés de l'enseignement à distance lors du premier confinement. Il y a une difficulté là, c'est que la nouvelle forme n'est pas détectée comme ça. Il faut une deuxième série de vérifications et de tests pour savoir exactement de quelle souche relèvent les pathologies. Donc c'est vrai que là encore, on a le sentiment qu'on court derrière le virus et que la seule solution, et je suis d'accord avec Thierry, c'est qu'on on prépare l'opinion, même si alors dans le même si on dit pour l'instant il n'est pas question de reconfiner, en fait la réponse dans la question et la réponse surtout le c'est pour l'instant qui est important, parce que on voit bien que les pays qui ont été confrontés à ça ont été obligés de retarder. Donc toutes les hypothèses à mon sens sont sur la table. Pour l'instant on a voulu dans une séquence la semaine dernière rassurer les Français en mettant en accélérant sur la période vaccinale. Aujourd'hui, on voit qu'on est rattrapé par cette menace. Et par conséquent, tout le monde s'interroge. Effectivement, quand on voit qu'aujourd'hui, en Chine, 18 millions d'habitants sont reconfinés à côté de Pékin, on peut se dire qu'il y a matière à se poser des questions sur les semaines qui arrivent.
Oui. Le sentiment que ça donne, c'est en effet, comme le soulignait à l'instant Christine, que en fait, le terme de reconfinement, troisième confinement, est réutilisé de manière régulière par les politiques en nous disant non, on fait tout pour l'éviter, mais c'est une façon de nous préparer psychologiquement à cette idée. C'est ce que soulignait très bien Yves il y a quelques instants, parce que ces milieux économiques, les décideurs économiques qui ont en charge d'anticiper pour leur propre communauté, leur entreprise, savoir s'ils doivent investir ou non, sont très à l'affût de la moindre information rigoureuse, scientifique. Donc eux savent déjà qu'on risque ce troisième reconfinement. Si c'est le cas, il aurait peut-être la nature qu'avait le confinement d'octobre-novembre.
Un tout petit peu plus léger,
c'est ça. C'est-à-dire que moins, pas celui de mars.
Pas celui de mars. Yves de Cadrel, c'est ce qui est envisagé du côté des entreprises ?
Oui, en fait, Emmanuel Macron est face à un dilemme qu'il a affronté à plusieurs reprises et qu'il déteste affronter. Qui est simple. Il a un conseil scientifique présidé par monsieur le professeur Delfraissy qui lui demande de reconfiner. Il s'est aussi créé, on en a moins parlé, un conseiller économique avec deux prix Nobel, dont le Tyrol notamment, Olivier Blanchard, l'ancien chef économiste du FMI, et également Patrick Artus. Patrick Artus a récemment, qui est un économiste très réputé, a récemment fait une note qui a été très lue dans les milieux politiques, disant c'est simple, la croissance telle que tout le monde la prévoit en 2021, elle est de 5 à 6% pour la France, mais compte tenu des retards de la campagne vaccinale et compte tenu des reconfinements à prévoir, elle sera finalement de 2%. Oui. C'est-à-dire elle sera trois fois inférieure à ce qui était prévu. Donc le chef de l'État, il est coincé entre j'ai une croissance qui me permet qui permet à la France de rebondir, ou bien est-ce que je suis les consignes sanitaires de reconfinement.
Oui, bon.
C'est l'éternel dilemme économique.
En sachant qu'on aura cette semaine les résultats, on va dire entre, j'aime pas le mot résultat, mais on aura des données sur les conséquences des vacances de fin d'année, sur
les
l'épidémie. C'est ce qu'on attend cette semaine.
C'est vrai. Les 15 jours qui viennent vont être décisifs. Un mot, Christine, aussi. Le ministre de l'Agriculture, Julien Normandie, est attendu aujourd'hui ce matin, dans le Gers, je crois, c'est ça. Cette fois-ci, sur la grippe aviaire, hein, puisqu'on sait qu'il y a le département des Landes avec une situation alarmante et il y a la crainte également de propagation, c'est ça ?
Absolument. Alors c'est marrant parce que on pourrait faire un parallèle avec ce qui nous arrive avec le virus, parce que on voit qu'on n'était pas préparé. On avait pourtant des signaux d'alerte en 2015, en 2017. Hein, la grippe aviaire avait fortement impacté toute la filière foie gras et volaille, avec des mesures sanitaires. Et il faudra en tirer les conséquences, hein, qui étaient les suivantes, c'est qu'il fallait enfermer les canards pour pouvoir se protéger des oiseaux migrateurs qui eux propagent le virus de la grippe aviaire. Ouais. Et donc on a enfermé une majorité de palmipèdes dans les élevages, et malheureusement le virus entrant dans ces élevages se propage deux fois plus vite que si les animaux étaient en plein air. On a un vaccin, mais le vaccin ne peut pas être utilisé parce que pour des raisons sanitaires, on ne pourra pas exporter et consommer la viande, en tous les cas les animaux qui sont vaccinés. Ouais. Et donc aujourd'hui, là aussi, on est dans une situation où les éleveurs sont obligés de courir derrière un virus, où on a des solutions, mais elles ne sont pas toutes utilisées, et le seul remède que va annoncer le ministre, ce sont des aides pour faire face face à la crise, parce qu'inexorablement, on va abattre des canards et pour arriver à faire un vide sanitaire assez conséquent et stopper la progression de cette grippe aviaire, cette grippe H5N8.
Ouais. Oui, bon, merci Christine Bouillot, Yves de Kerdrel, Thierry Guerrier. Dans un instant, les réseaux sociaux, avec cette histoire de Donald Trump et puis même du réseau aussi WhatsApp. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu ces dernières informations concernant WhatsApp.
Sur les réglementations vont changer.
La réglementation qui va changer, le partage beaucoup plus conséquent. Enfin bon, bref, il y a beaucoup de questions. On va les poser à Thomas Forêt, qui est président de Waller. Hein. C'est le réseau social français, alors qui a du mal à exister, mais qui existe quand même. Et il sera avec nous dans un instant. Vous pourrez poser des questions et ensuite nous irons à Londres. On va voir comment se passe l'épidémie avec ce variant britannique, avec Thomas, avec Gaspard Koenig, qui vient d'écrire le philosophe et écrivain L'Enfer.
Donc, est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux posent un problème pour la démocratie? Vous nous appelez 0826-300-300, on revient dans un instant. À tout.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
9h04, merci d'être avec nous et on va revenir ce matin sur les nouvelles réglementations pour WhatsApp, la censure pour Twitter. Y a-t-il un abus de pouvoir des GAFA? Ce matin, on en parle avec Thomas Forêt, président de Waller Réseau Social Français. Merci d'être avec nous, bonjour.
Merci, bonjour.
Et on va revenir bien entendu sur Donald Trump qui a subi une suspension de compte de la part de Twitter, de Facebook, de Snapchat et de Google.
Oui, alors Thomas Forêt, en fait il y a un vrai problème aujourd'hui. On le sentait venir depuis un petit bout de temps, mais sur la souveraineté et la puissance, entre guillemets, des GAFA. Puisqu'il y a aussi l'autre histoire WhatsApp, les nouvelles règles, on va voir ça sur WhatsApp tout à l'heure. D'abord, par rapport au président des États-Unis, Thomas Forêt.
Oui, il a été banni donc des réseaux sociaux, Twitter, Facebook le modère, YouTube également, Snapchat, vous l'avez cité. Il est banni parce qu'en fait, ce sont des entreprises privées, donc elles ont leurs propres règles, et si on contrevient à la règle, on peut être supprimé comme un banal utilisateur.
Mais la règle, c'est quoi ?
La règle, c'est ne pas inciter à la violence, c'est là-dessus, puis ne pas diffuser de fake news, ça c'est pour la modération des contenus. Voilà, la suspension d'un compte, c'est parce que Trump aurait incité peut-être l'insurrection. En tout cas, c'est des règles qui s'appliquent à tous les utilisateurs. Et ce qu'il faut surtout noter, c'est que ce sont des entreprises privées qui, aujourd'hui, ont des pouvoirs, un pouvoir qui est à l'égal des États. Et autant c'est un problème de souveraineté pour nos peuples en Europe, en France, c'est aussi un problème de souveraineté aux États-Unis aujourd'hui. Et on a, pour la première fois dans l'histoire, des groupes privés qui sont peut-être de nouveaux États. Je ne sais pas si vous vous souvenez, Bruno Le Maire qui a quand même dit, il y a quelques semaines, que c'était les adversaires des États. Ouais. Et donc, il faut entendre cette menace pour nos démocraties.
Oui. Et on ne peut pas grand-chose, nous, par exemple, alors à notre échelle, en France ou en Europe, face à aujourd'hui au développement de ces GAFA qui sont omniprésents, parce qu'on les utilise tous, quoi. Même s'il y a votre raison, on va en parler dans un instant, mais...
Oui, on ne peut pas grand-chose parce qu'Internet est devenu américain. En tout cas, Internet en Europe, parce que si vous allez en Corée, ou en Chine ou en Russie, c'est pas la même histoire.
Je reviens sur ce que vous disiez sur le fait de bannir ou pas bannir, mais là il y a deux poids deux mesures, puisque après qu'on soit contre Trump ou pour Trump, le statut effectivement l'éjecter de Twitter, il y a plein de comptes aujourd'hui qui prônent la guerre, qui prônent le terrorisme et qui sont encore existants. Donc c'est vraiment comment justement, pourquoi Trump et pas les autres.
C'est tout le débat qu'on a eu en 2020 sur la modération des réseaux sociaux, qui est un débat extrêmement compliqué, où on voit les plateformes qui reculent parce qu'elles ne veulent pas être des éditrices, elles veulent être simplement des hébergeurs de contenu. D'ailleurs, aux États-Unis, elles ne sont pas aujourd'hui responsables du contenu qui est diffusé. C'est un débat d'abord qui est porté par l'Europe, ça c'est intéressant. Hein. On va en reparler peut-être sur WhatsApp, mais en Europe, des règles différentes s'appliquent. Donc il faut vraiment pousser cette régulation qui est absolument nécessaire. On ne peut pas rester comme ça dans un monde où d'un côté, on a des géants numériques qui ont la force d'État, et de l'autre côté, des démocraties ou des États. C'est pas possible. Il faut que les peuples, par leur démocratie, restent souveraines en tout lieu. C'est vraiment un sujet de service public, c'est un sujet de voix citoyenne. si vous voulez. Oui. C'est même pas un sujet d'entreprise.
Alors venons-en, Thomas Fauré, aux nouvelles règles de WhatsApp, donc, qui a informé qu'il partagerait davantage d'informations avec sa maison mère Facebook. Du coup, il y a certains qui disent non, mais ça va pas là, parce que jusqu'à présent, WhatsApp, c'était assez, disons, limité hein, sur le partage de données. Là, ce ne sera plus le cas et il y en a certains qui appellent à aller vers d'autres applications. Quoi.
Oui, Dieu merci. D'ailleurs, c'est les Américains, encore une fois, qui ont lancé ces appels. Ouais. Elon Musk en premier, ce qui est assez incroyable, le président de Twitter aussi. Alors, ce qui s'est passé, c'est très simple. C'est Facebook qui a racheté il y a quelques années WhatsApp. On pouvait évidemment se douter qu'ils allaient mutualiser leurs services. Regardez les services de Google, tout est mutualisé. Donc c'est tout à fait légitime, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on peut le comprendre. Simplement, ils mentent aux utilisateurs. Simplement, ils vous disent, non, vous êtes sur WhatsApp, tout est privé, etc. C'est absolument faux. Aujourd'hui, ils sortent du bois. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, simplement une chose, on va rapprocher les numéros de téléphone. Bon, ils se moquent de nous, hein, ils se foutent de notre tête, hein, évidemment. C'est-à-dire que vos comptes WhatsApp seront vos comptes Facebook, ça c'est une évidence, et donc vos données seront exploitées de la même façon, comme sur Messenger, comme sur Instagram. Ah oui. Pour faire quoi ? Parce qu'ils veulent... WhatsApp, c'est une société,
en fait.
Oui, qui perd de l'argent. Mm-hmm. Et donc, ils veulent apporter des services aux utilisateurs, comme si sur leurs autres plateformes, ils vont le faire. Et pour ça, ils ont besoin, évidemment, d'exploiter les données. Ça a toujours été le modèle de Facebook. Et on voit aujourd'hui donc, des appels à aller sur d'autres plateformes pour de la messagerie privée. Il y en a plusieurs. D'ailleurs, moi, je vous incite, vous les auditeurs, à aller sur les messageries françaises. Il y en a beaucoup. Hein. Il y a Waller, d'une part, mais il y a Scred. Il y a Olvid, qui est une société qui fait de la messagerie sécurisée, certifiée par l'État, enfin par l'ANSSI.
Qu'est-ce qu'on peut faire avec, avec votre messagerie, vous, alors, Thomas Fauré ? Parlons-en, Waller.
Oui, ben merci beaucoup.
W-H-A-2-L-E-R, je le précise pour les auditeurs. C'est pas que de la pub, au passage, parce que c'est de l'explication et c'est de l'information.
Oui, puis moi, c'est mon combat depuis 10 années maintenant, donc de la pub, je fais que ça tout le temps en réalité. Qu'est-ce qu'on peut faire avec Waller ? On peut créer des réseaux sociaux qui sont privés, dont les données ne sont pas exploitées et qui peuvent être utilisées à des fins personnelles ou professionnelles. On est beaucoup déployés dans le monde professionnel. Il y a beaucoup de gens peut-être qui nous écoutent, qui vont découvrir aussi la technologie Waller qui est en train d'être déployée chez Pôle emploi aujourd'hui massivement. On est une technologie de confiance, première chose, on est un logiciel, on n'est pas autre chose. Notre modèle économique chez Waller, c'est tout sauf l'exploitation de données. Oui. Voilà, on est persuadé qu'on peut créer une vraie alternative au modèle américain en respectant l'utilisateur.
C'est vrai, Thomas Fauré, le problème, c'est que c'est l'argent qui est toujours le nerf de la guerre. Il faut avoir des investisseurs, il faut pour se faire connaître, pour développer de la technologie. Et ce sont les plus grands qui ont pris les devants, c'est-à-dire les GAFA, hein, bien sûr, et puis le chinois aussi, l'asiatique TikTok, hein, qui se développe aujourd'hui à vitesse grand V. Comment vous pouvez lutter ? Est-ce qu'on vous soutient au niveau français, au niveau européen ?
On ne pouvait pas lutter dans un monde où tout était publicitaire, finalement. Il y a quelques années, c'était impossible de trouver des financements, et donc c'est la raison pour laquelle ça fait 10 ans qu'on y est. Mais aujourd'hui, la roue tourne. Aujourd'hui, la question de la souveraineté n'est plus vue comme un mot seulement politicien.
Oui, c'est vrai.
La question du développement de nos emplois sur notre sol, de la capacité à faire monter notre économie et à conserver une indépendance qui, on le voit, si on ne réussit pas à gagner un tout petit peu plus d'indépendance dans les technologies, on sera, et comme on est depuis 10 ans, à la merci des Américains et à la merci politique des Américains. Aujourd'hui, ils bannissent la voix de leur président. Demain, ils bannissent la voix d'une autre. Si vous voulez, on est à deux doigts de ça. Il n'y a pas de règles. Donc, il faut, dans tous ces domaines et en réalité dans tous les domaines économiques qui soient majeurs, développer notre propre indépendance. Et ça, comme la roue tourne aussi, finalement, et aussi pour nous.
Oui, vous êtes entendu quand vous développez ce discours au plus haut niveau par le gouvernement, le chef de l'État et puis même au niveau européen.
Il y a beaucoup d'acteurs, effectivement, qui nous écoutent, qui peut-être nous tendaient l'oreille il y a quelques années, qui aujourd'hui rentrent dans un dialogue plus construit, mais il y a encore beaucoup à faire. Oui, Waller, comme d'autres sociétés en France, est soutenu, hein, Dieu merci.
Bien sûr, il y a un autre réseau qui s'est développé il y a quelques années, hein, c'est ça ?
De quoi ? De Quant ?
Oui, il y a Quant,
Quant,
voilà,
le,
c'est ça.
Leur moteur de recherche, oui, ouais, justement, ouais. Qui est très aidé aussi par le...
Oui, ils ont... alors eux, c'est différent, parce
c'est
que
un
l'État
moteur de
est à leur capital et le modèle économique est peut-être un peu plus difficile à trouver. Nous, à notre capital, hein, on est indépendant. Donc, il n'y a pas... en revanche...
Qui utilise Waller aujourd'hui ?
Les sociétés, les entreprises, les grandes entreprises. Vous voyez, on vient de signer un très beau contrat avec Ariane Group, par exemple. Ouais. Des banques, la BNP, des services publics, des ministères.
Pour leur propre messagerie,
leur propre,
quoi.
Voilà, leur propre plateforme interne. On vient de lancer Waller à Sciences Po, à cette rentrée, à l'école polytechnique, etc. Beaucoup d'associations aussi, et beaucoup de familles, d'amis qui veulent discuter en sécurité.
Vous pensez qu'un jour, oui, c'est possible d'avoir un réseau Waller hyper développé, très performant, permettant à beaucoup plus de Français, en l'occurrence, puisque là, c'est en France, de venir sur... partager sur votre réseau.
Non seulement j'y crois, mais... Non, vous voyez, enfin, si jamais c'est utopique, alors j'y aurais consacré ma vie. Ouais. Non, c'est absolument pas utopique. D'ailleurs, plus ça va, plus c'est réaliste. On a eu une année 2020 extraordinaire. Ouais. Non seulement on a fait 60% de croissance. Vous imaginez, c'est même pas une croissance à deux chiffres, c'est 60%. On est une entreprise qui est désormais rentable. Donc, on n'a même pas ces sujets d'aller chercher en permanence de l'argent. Notre trafic a augmenté de 400%. C'est des chiffres réels, hein. Je pourrais les gonfler pour faire de la publicité, mais c'est des chiffres réels. Donc l'avenir, normalement, est radieux pour nous.
Ouais. Sauf que ça marche bien avec les entreprises, mais au niveau du grand public, c'est plus difficile. Quoi.
Et tout l'enjeu est
là, peut-être, non ?
C'est extrêmement difficile de lancer comme ça sur le marché européen une application qui soit uniquement faite pour les particuliers, en refusant les modèles économiques qui sont les modèles publicitaires. Si on lançait cette plateforme avec des modèles publicitaires, ce serait beaucoup plus simple.
Oui, parce que comment vous pouvez faire pour vivre en lançant ce réseau auprès d'un grand public s'il n'y a pas de recettes publicitaires ?
Eh bien, mon idée, c'est de vraiment nous déployer le plus possible dans des industries stratégiques, dans des institutions aussi en Europe. On vient de signer notre premier contrat avec la Commission européenne, ce qui est incroyable. Et puis de donner cette technologie à l'utilisateur. Cette technologie qui aura été fabriquée par le financement, si vous voulez, de nos entreprises, de nos États.
Ouais. Est-ce qu'on a beaucoup parlé de l'omniprésence et de la puissance des Américains ? Est-ce que sur la scène internationale, j'ai évoqué tout à l'heure le chinois TikTok, il y en a d'autres, les Russes, les Indiens, qui se développent aussi énormément ?
Oui, bah en Russie, vous avez le réseau VK qui est là depuis toujours, ils ont leur propre Facebook. En Chine,
WeChat.
Vous savez, WeChat, c'est chinois, voilà. En Corée également, tous les pays qui ont mené des politiques protectionnistes, souverainistes, aujourd'hui, sont indépendants des GAFA.
On disait qu'ils
GAFA,
étaient contre la liberté, oui, c'est ça, qu'ils étaient contre la liberté parce qu'ils les protégeaient, mais... Et finalement, quelque part, aujourd'hui, ils sauvent un peu une forme de liberté.
Mais ils la sauvent pour eux-mêmes, en tout cas, et pas pour nous. En Europe, on a intérêt de trouver un modèle rapidement qui soit différent, d'abord, parce que je pense pas qu'on veuille répliquer ce que font les Chinois, qui sont quand même dans une société de surveillance de masse.
Ils n'ont pas le droit d'utiliser Google, ils n'ont pas accès à Google, les Chinois.
Oui, et puis vous avez entendu parler de l'histoire de Jack Ma, le patron d'Alibaba, qui a disparu des radars depuis qu'il a critiqué le gouvernement chinois. C'est pas la réalité, on veut certainement pas de ce modèle. Ouais. En revanche, il faut quitter le modèle de la naïveté, et je crois que Thierry Breton aide beaucoup à ça en ce moment, c'est pas le seul.
Va se jouer à l'échelle européenne.
Oui, moi je pense que... Les pays européens sont quand même indépendants d'une certaine façon. Et donc, il ne faut pas quitter cette idée. Il ne faut pas dire que tout va jouer à Bruxelles. Hein. Non, ça se joue dans nos territoires, ça se joue dans nos entreprises, je crois, évidemment, consolidées en Europe.
Mais c'est quoi la bonne attitude ? Est-ce que ça veut dire qu'il faut quitter les réseaux Twitter, Facebook, ou alors les garder, mais aussi s'ouvrir au modèle français ?
Ça dépend de l'usage. Quitter Twitter, pourquoi pas, mais pourquoi faire ? Parce que c'est un média public. Mais c'est pas le seul usage. Sur Internet, vous avez des tas d'usages. Et tout l'usage de conversations privées, de la collaboration au sein des associations, au sein des écoles, tout ça, on peut pas utiliser ces outils pour ça. Ils n'ont pas été conçus pour ça. Ils exploitent des données qui sont censées rester confidentielles, privées et à la main de leurs propriétaires. Et donc, il faut se tourner vers des solutions alternatives. Il en existe un certain nombre, ou alors n'est pas le seul. Et d'ailleurs, nous, les solutions alternatives en Europe, on commence aussi à discuter entre nous.
Oui, mais vous pensez pas qu'il y a une pédagogie, parce que y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui qui ne doivent même pas savoir que ça existe. C'est-à-dire qu'il y a un manque de pédagogie. On connaît Twitter, Facebook, WhatsApp, oui, mais tout le reste, voilà, TikTok, c'est une certaine génération. Il y a un vrai problème de pédagogie dans le pays, quand même.
Oui, c'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que je vous remercie de m'avoir invité, parce que cette pédagogie est absolument nécessaire. Elle va se faire, il faut encore du temps. On commençait à parler de ces sujets il y a 2 ans avec Cambridge Analytica. Et j'étais sur votre antenne aussi pour commencer à en parler. 2 ans plus tard, les gens savent quand même, ont conscience. Mais il n'y a pas forcément encore d'outils qui soient aussi peut-être.
Mais est-ce qu'il ne faudrait pas une matière à l'école pour le plus jeune âge?
Ah oui, ça, vous avez raison. Ouais. Ça doit faire partie de l'éducation civique. Ça, bien sûr, il faut que les programmes s'orientent aussi. Aujourd'hui, on voit beaucoup le programme scolaire, il est très orienté vers les dangers de l'Internet.
C'est vrai.
Pour autant, il ne propose pas beaucoup d'alternatives. J'en sais quelque chose, parce que moi, j'ai des enfants qui sont à l'école primaire. Et pendant le confinement, on a tous joué le rôle de professeur, donc on a fait ça. Mais effectivement, il faut pousser auprès de nos enseignants une vraie pédagogie. Ça, c'est une certitude.
Ouais. Allez, dans un instant, merci Thomas Fauré, président de Waller, donc Réseau Social Français. Merci d'être venu. Dans un instant, on va partir un petit peu plus loin.
Oui, en Angleterre.
En Angleterre.
Absolument.
Et vous savez quoi? Malheureusement, on va utiliser une technologie américaine, c'est-à-dire Zoom, pour être en direct avec Gaspard Koenig. J'espère qu'on pourra utiliser bientôt une technologie plus franco-française, ou en tout cas européenne. Mais il en existe.
Tixeo, par exemple, qui est une excellente solution française.
Tixeo. Bah oui, mais alors il faut que tout le monde la charge. Quoi.
Voilà, exactement. C'est ça, c'est toujours le même problème. En tout cas, on part en Angleterre pour ce livre qui s'appelle L'Enfer. C'est un conte philosophique aux éditions de l'Observatoire avec Gaspard Koenig dans un instant. Bougez pas, 9h19.